Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ces faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire.
Savez-vous qu'en Indre-et-Loire, on perpétue le savoir-faire du papier peint à la planche, qu'on fabrique des bottes en caoutchouc dans la Vienne et que l'Indre compte de nombreux maroquiniers? Moi, c'est Philomène. Le temps d'une saison avec la Nouvelle République, on vous emmène à la découverte des savoir-faire et des talents locaux. Bonne écoute! Aujourd'hui, c'est à Poitiers que nous vous emmenons. Celle qu'on surnomme la ville aux 100 clochers, avec ses maisons à colombages, sa cathédrale romane, ou encore son université parmi les plus anciennes d'Europe. La ville nous accueille sous une pluie fine qui plante bien le décor, puisque nous avons rendez-vous avec une famille de fabricants de parapluies de père en fils. Installée en plein centre-ville depuis 1882, la fabrique de parapluies François Frère restaure, mais aussi crée de A à Z, des pépins qui sont à la fois beaux et durables, bien loin des modèles chinois, vous savez, ceux qui rendent l'âme au premier coup de vent. Alors installez-vous confortablement, écoutez la pluie tomber, et poussez avec nous la porte de cette merveilleuse petite échoppe jaune et verte. Bonjour, Pierre, Lilian.
Oui, bonjour, oui. Je m'appelle Pierre-François et je représente la quatrième génération de l'entreprise de la fabrique de parapluies dans la Canrue, voilà.
Et vous, Lilian ?
Bonjour, moi je suis la cinquième génération. Ça fait 15 ans que je travaille dans la fabrique de parapluies François.
Pour commencer, j'aimerais bien qu'on fasse un voyage dans le temps, qu'on revienne aux origines de l'atelier François Frère. Donc on remonte jusqu'au Second Empire et ça commence directement par une histoire de famille, un mariage, je crois.
Justement, ce qui est formidable dans notre entreprise, enfin, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que notre entreprise a été créée par mon arrière-grand-mère en 1882, alors qu'elle était déjà, elle avait déjà travaillé dans le parapluie, mais elle avait décidé de se mettre à son compte. Et donc, vous voyez, ça fait maintenant plus d'un siècle que notre entreprise fabrique des parapluies perdurent, voilà.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, donc, quand l'atelier est créé en 1882, le parapluie, c'est un article de luxe.
Oui, c'est un article de luxe. C'est à la fois un objet usuel, mais surtout un produit de luxe. Donc, il y avait de très, très beaux parapluies avec des manches sculptées, avec de la soie, avec beaucoup de choses. Le parapluie s'utilisait à n'importe quelle occasion, que ce soit pour le soleil ou que ce soit pour la pluie. Il existait aussi des parapluies épais. Est-ce que une fois d'ailleurs, j'ai dans la restauration de parapluies anciens, j'ai trouvé une ombrelle qui était armée, qui avait donc à l'intérieur comme une petite épée, comme une petite dague, voilà. C'était probablement la personne à l'époque, c'était pour défendre sa vertu.
Non seulement vous créez ici des parapluies sur mesure, mais vous les réparez aussi.
Oui, on les répare et on les restaure aussi.
Donc vous voyez passer des parapluies très anciens. Quel est le parapluie le plus ancien sur lequel vous avez travaillé ?
Oh, ça remonte jamais à plus du 19e siècle.
Et justement, alors à l'époque, ils étaient faits en quoi les parapluies ?
Alors les parapluies étaient toujours faits avec des baleines en acier. Par contre, il existait aussi des parapluies qui étaient faits avec des fanons de baleine. Alors les fanons de baleine, c'était donc à l'époque où on chassait la baleine, on se servait des dents des baleines et on taillait dedans de quoi faire des baleines de parapluie. Ça, c'était vraiment un parapluie de luxe.
Et au niveau des tissus, on utilisait quoi ?
On utilisait toujours les mêmes choses, des cotons, beaucoup c'était surtout des tissus naturels à l'époque.
Et si on avance un peu donc dans le XXe siècle, le parapluie va évoluer, c'est vraiment un miroir de l'évolution de la société ?
Oui, absolument. Par exemple, à une certaine époque, si on remonte aux années 70-60, le parapluie était déjà un parapluie très coloré et souvent on le portait en bandoulière, c'est-à-dire qu'on avait une petite ficelle et on le portait sur l'épaule, vous voyez ? Et après, il y a eu la création du parapluie pliant, donc pour mettre dans le sac, parce que les gens avaient besoin d'avoir un parapluie pratique. Maintenant, nous, les gens qui viennent dans notre boutique, cherchent surtout, d'une part, l'originalité et surtout la qualité.
Et est-ce que cette évolution, justement, ça a changé les techniques ? Il doit y avoir une mécanisation, sans doute ?
Oui, bien entendu, puisque le parapluie pliant, par exemple, avec système automatique, n'existait pas autrefois.
Aujourd'hui, vous proposez principalement deux modèles ?
Oui, on fait deux modèles, c'est-à-dire qu'on fabrique toujours des parapluies pliants, bien sûr, pour que les gens aient un parapluie pratique, qu'ils aient toujours avec eux. Et après, on fabrique également des beaux parapluies. Alors, le beau parapluie, c'est souvent le parapluie non pliant.
Donc en fait, finalement, ce qui fait que votre maison dure depuis 1882, ça tient en un mot-clé, si je comprends bien, c'est l'adaptation.
L'adaptation, exactement. Puis aussi, peut-être parce qu'on est des gens qui tiennent absolument à ce que cette entreprise perdure, puisque nous avons traversé des périodes très difficiles. Les périodes très difficiles, ça a été surtout l'époque où ce qu'on appelle la période du tout chinois, où toutes les importations sont rentrées en France. Et là, à cette époque-là, effectivement, on a énormément souffert. On s'est dit, il n'y a rien à faire, il faut que ça continue. On s'est accroché et on a eu raison, puisque maintenant, les gens cherchent la qualité. Vous voyez, donc la forme, je veux dire, la consommation a complètement changé.
On revient au durable, oui, à la fabrication française, artisanale.
Voilà, exactement. Bien entendu, ça nous a permis d'assurer la cinquième génération, voilà, et donc de transmettre ce métier pour que la personne à qui on transmet, bien parfois, puisse en vivre.
Et alors, Lilian, justement, vous qui incarnez la cinquième génération, comment ça s'est fait cette transmission? Comment vous en êtes venu à reprendre cette belle histoire de parapluie?
Ben moi, je suis arrivé il y a 15 ans dans la fabrique de parapluies, mais c'était juste pour aider au départ. Parce que dans les années, à partir des années 90, ils ont traversé vraiment une période difficile. Ils étaient 13 en tout dans l'entreprise, dont 11 salariés. Il y avait un deuxième atelier dans la rue juste à côté. Et quand il y a eu tous les parapluies chinois, ils ont licencié 11 personnes. Ça a été très difficile pour eux. Pierre avait trouvé la solution, comme Poitiers n'était pas une ville touristique, pour vendre ses parapluies l'été sur les périodes estivales, et bien, il avait trouvé une boutique à Saint-Bertrand-de-Comminges, qui est un des plus beaux villages de France et qui est très très touristique. Donc l'été, il partait dans cette boutique, il arrivait à vendre suffisamment de parapluies pour au départ survivre et pour ensuite redévelopper l'entreprise, mais sauf que quand il partait là-bas, c'était fermé à Poitiers. Et moi, j'étais dans une période où je sortais d'une formation en informatique, et il m'a dit, écoute, si tu veux ouvrir la boutique ici à Poitiers... parce qu'elle était quand même fermée à peu près 4-5 mois. Donc moi, c'était il y a 15 ans. Je lui ai dit, écoute, je veux bien essayer. Par contre, j'y connais rien au parapluie. Je veux bien essayer de faire un peu de vente, pourquoi pas. Donc l'aventure a commencé comme ça, par la vente. Et puis après, il a commencé à m'apprendre un peu plus la réparation et ensuite la fabrication. Et puis, voyant qu'il y avait quand même une clientèle un petit peu qui se baladait sur Poitiers, ça redémarrait tout doucement, parce que vraiment le Made in France est reparti il y a 10 ans. Et on a fait un petit site vitrine avec un copain. C'est important d'avoir une visibilité sur Internet. Donc c'était un petit site vitrine tout simple, mais ça permet d'avoir une visibilité plus importante. Et donc voilà comment j'ai commencé l'aventure. Et puis après, petit à petit, j'ai appris la fabrication. On a redéveloppé un petit peu l'entreprise. La clientèle est revenue surtout. Et c'est là où tout a démarré.
Donc vous avez été formé totalement en interne par la quatrième génération ?
Exactement. Exactement, parce que c'est des métiers qu'on n'apprend pas dans les écoles.
Oui, il n'y a pas de formation à la fabrication du parapluie ?
Pas du tout. Même les stagiaires qu'on a pris en couture, on est obligé de les former sur le parapluie. Donc effectivement, j'ai tout appris dans l'atelier, des gestes qui ont été transmis directement. Voilà, quelque chose de rare, quoi.
Et aujourd'hui, vous êtes combien alors dans l'atelier ?
Alors donc, on est 3 gérants et une salariée, donc Emma, qui nous a rejoint depuis le 1er septembre 2023. Donc voilà, on est 4 personnes.
Et tout le monde sait tout faire ?
Tout le monde sait tout faire. Justement, c'est ça qui est bien dans notre métier, c'est que c'est polyvalent. On n'est pas bloqué que sur un poste à faire que la couture de la toile ou que de la vente ou que de la réparation. Donc tout le monde sait tout faire et tout le monde est polyvalent, quoi.
Donc, vous ne regrettez pas l'informatique ?
Pas du tout. Non, pas du tout. Surtout que, mine de rien, avant l'informatique, j'ai quand même fait un CAP BEP de pâtissier.
Ah oui.
Donc, finalement, que des métiers qui sont manuels. Enfin, après l'informatique, tout ce que j'ai fait m'a aidé pour mon métier actuel, en fait.
Et ça fait quoi, alors, de porter aujourd'hui l'histoire de 5 générations, toute une histoire familiale ?
Je dirais que c'est un vrai honneur, surtout qu'au départ, quand je suis arrivé, c'était pas quelque chose... Enfin, il n'y avait rien de sûr. Hein. Pierre m'avait pris pour dire, on t'ouvre la boutique, on regarde comment ça se passe. C'était même pas sûr qu'il me garde. Quand c'est reparti il y a 10 ans, grâce au Made in France, à la façon de consommer, petit à petit, on a remodernisé un peu notre site, on a remodernisé nos locaux. Puis finalement, pour arriver où on en est là aujourd'hui, jusqu'à même embaucher Emma. Oui, c'est un véritable honneur, surtout que c'est un métier qui est très très rare. Donc oui, on est vraiment content de pouvoir refaire revivre l'entreprise.
On va essayer de comprendre concrètement comment ça se fabrique, un parapluie. Donc imaginons que j'arrive, je suis une cliente et j'ai envie de vous commander un parapluie sur mesure. En l'occurrence, moi j'aime beaucoup le bleu, donc j'aimerais un parapluie avec un tissu bleu à motif, parce que je vois que désormais vous faites des motifs.
Depuis le 1er septembre, on a Emma, notre salarié, qui peut dessiner un motif sur le tissu, ou alors un texte, ou un logo, une citation, choisi par le client. Comme vous avez la petite ombrelle là-bas, c'est un dessin qu'a créé Emma, qui a été sérigraphié, parce qu'autrement elle les peint à la main. Donc vaut mieux une toile qui est unie, et en ce moment-là, vous choisir un motif voilà, qui vous tient à cœur. Notre particularité, c'est que les baleines sont en fibre de carbone, c'est comme des structures de cerf-volant. Donc ça ne va pas se retourner même avec un vent de bord de mer. On monte dessus, basiquement, des poignées en érable. Mais on a effectivement après d'autres bois différents. Donc voilà, on peut par exemple vous faire choisir donc, parmi tous les tissus qu'on propose en boutique, le tissu que vous voulez, le mélanger avec n'importe quel autre tissu. On pourrait mélanger celui-ci avec un bleu ciel, par exemple, ou un autre bleu. Et vous faire choisir la poignée, ce qui sont juste derrière Pierre. On a des poignées en cuir dans différents bois, ce qui fait encore la personnalisation supplémentaire.
Il y a combien d'étapes pour fabriquer un parapluie ?
Il y a à peu près 15 étapes. Déjà, il y a une façon de plier le tissu. Parce que, en fait, un parapluie, c'est plusieurs triangles. Donc, en fait, pour couper un parapluie d'un coup, il y a 8 baleines, donc il y a 8 triangles. Donc, on va en fait plier le tissu en 8 pour qu'on vienne poser notre patron dessus. Donc, la première étape, ça va être la coupe. Ensuite, il va y avoir la deuxième étape qui va être l'ourlet. Ici en bas. Ça vient renforcer donc le bas du parapluie. Ça va éviter que le tissu s'effiloche avec le temps. Donc ça, ce sera la deuxième étape.
Ça, vous le faites à la machine ?
À la machine, machine à ourler, piqueuse plate, hein, comme on peut trouver dans d'autres ateliers de couture. Ensuite, l'étape suivante, ça va être la fabrication de la toile, donc à l'aide de la surjeteuse. Donc en fait, on va venir rassembler tous les morceaux, tous les triangles entre eux, pour en faire la toile du parapluie. Donc ça, ça va être donc la troisième étape. La quatrième étape, qui est une petite étape, on va venir dessous cette plaque poser le fond du parapluie pour venir sertir en fait les coutures pour pas qu'elles se déchirent. La cinquième étape, ça va être de coudre les aiguillettes, ici à l'aide de nos vieilles machines d'Urcop de 1960, que je vous montrerai aussi, parce que c'est des machines spécifiques au parapluie qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Alors on sait le faire à la main, hein, mais évidemment à la machine, on peut en coudre 10, alors qu'à la main, on en coud une. L'étape suivante, donc on va prendre notre toile, on va la poser sur le mécanisme et là on va venir rassembler la toile sur l'armature du parapluie. Et donc là on va venir faire les points d'arrêt entre la couture et la baleine. Ici, pour venir mettre la toile sur le mécanisme du parapluie. Donc à partir de là, on est presque à la fin, en tout cas de la partie toile et repassage, parce que ça, ce sera la dernière étape. Donc ensuite, une fois qu'on en est là, on va venir poser la petite plaque ici en haut. On va venir poser le bouton pression, en fait, pour fermer le parapluie. Et après, donc, la dernière étape, ça va être la machine à repasser que vous avez là-bas, tout en cuivre. Alors on en a une autre qui est à l'extérieur, où on met de l'eau à l'intérieur. La vapeur sort par le pommeau et ça vous permet de poser le parapluie dessus sans brûler le tissu et donc d'enlever tous les petits plis. C'est l'étape finale avant de mettre le parapluie à la vente. Alors on le fait sécher et après il est prêt à la vente en boutique.
Et au niveau du manche, le travail du manche, ça se fait comment ?
Alors donc nous on reçoit les poignées qui sont cintrés à chaud. Il n'y a que 3 fournisseurs en Europe qui cintrent le bois, parce qu'il y a 30-40 ans en arrière, on achetait tout dans le Jura, quand les fabriques de parapluies ont fermé, les fournisseurs ont fermé. On en achetait aussi en Italie, mais le fournisseur a fermé l'année dernière, on travaillait avec lui depuis 1950. On a encore heureusement un fournisseur en Allemagne, on commande nous à peu près par 300 poignées, sur les 300 poignées, chacune a des veines spécifiques, à sa personnalité, si je peux dire. Et donc, c'est cintré à chaud. C'est pas taillé dans la masse, c'est plié. Il y a des procédés pour plier le bois, le faire sécher. Et donc, on, On reçoit la poignée, nous, comme ça. C'est pas nous qui travaillons le bois. Et après, tout ce qui est pommeau ou poignée droite, comme justement le parapluie de berger, bah là, on fait travailler des tourneurs sur bois en France. Au revoir,
monsieur. Je tenais absolument à vous présenter un parapluie qui remonte aux origines de notre maison, et même d'ailleurs qui est beaucoup plus ancien que notre maison. C'est ce qu'on appelle le parapluie de berger, ou le parapluie de campagne. Lilian, d'ailleurs, va vous l'ouvrir, vous allez voir. Alors, vous voyez, sa particularité, c'est que toutes les baleines qui sont là sont en bois, en rotin. Et ça, c'est un travail, vraiment un travail très artisanal, puisqu'il faut tout tailler à la main, poser les fourchons et tout ça. Et donc, c'est quelque chose que l'on tient absolument à conserver dans notre fabrication. C'était le parapluie courant autrefois. Dans toutes les campagnes françaises, on avait ce parapluie. Ça permettait aux personnes de se protéger aussi bien du soleil que de la pluie. Oui. Et donc, c'est un parapluie. Alors, la toile est en coton. Oui. C'est un parapluie qui demande énormément de travail, mais c'est passionnant. Ça fait vraiment partie des choses qu'on tient absolument à conserver, puisque ça remonte aux origines du métier.
Alors pourquoi sur celui-ci les baleines sont en bois ?
Eh bien, pour pas attirer la foudre, les bergers s'en servent encore aujourd'hui comme abri dans la montagne quand ils partent en transhumance pour s'abriter de toutes les intempéries. Donc comme l'a dit Pierre, bah, du soleil, puisqu'en fait il filtre les UV, de la pluie puisqu'il est imperméable, et donc s'il y a un gros orage, il s'assoit dessous, il sait qu'il ne va pas prendre la foudre. Voilà. Mais après, on a un article un peu plus luxueux, parce que le parapluie berger reste un parapluie rustique, qu'on appelle le parapluie à montage anglais. Contrairement au parapluie de berger qui a été fabriqué depuis les origines de la maison, ça c'est quand même un parapluie traditionnel, mais qui a été fait un petit peu plus tard. Toutes les fabriques de parapluies ne le font pas, ce parapluie. Donc c'est un petit peu, je sais pas, comme le principe du maquillage dans le Pays Basque, puisqu'en fait c'est un parapluie qui est fait pour marcher avec. D'ailleurs on le règle nous à la taille du client. Et donc là on est plus sur deux morceaux de bois, c'est-à-dire que ce que je ne vous avais pas expliqué, c'est qu'ici, comme tous les parapluies, la poignée donc est en érable et le mât est en hêtre, tous les parapluies sont toujours en deux pièces, la poignée est collée sur le mât. Là on est sur un bois qui est cintré et qui est tourné. Donc là, c'est une seule pièce comme une canne. Ça, c'est un olivier. Alors, on a du châtaignier, du noisetier, d'autres bois différents. Donc là, c'est tout le même bois, de là jusqu'en haut, avec les pièces en laiton à l'intérieur, le petit embout en laiton qui est en haut ici. Ce parapluie, on peut marcher avec comme un bâton de marche. Et le client a la possibilité de choisir à la fois le bois et à la fois le tissu, soit en boutique ou soit sur notre site internet sur lequel il y a un formulaire. Et c'est un de nos plus beaux, de nos plus belles pièces.
Maintenant, on est avec Emma qui a rejoint l'atelier en septembre dernier, donc il y a quelques mois. Bonjour Emma.
Bonjour.
Comment tu es arrivée ici ? Quel a été ton parcours avant ?
Alors moi, j'ai commencé par un bac pro en communication, suivi d'un BTS en design de mode et textile matériaux de surface à Dupéré à Paris. Puis donc ensuite j'ai été en CDI pendant 3 ans donc chez Hermès en tant que décoratrice sur porcelaine. Je suis ensuite arrivée là par passion suite à une demande toute particulière de ma grand-mère donc qui est passionnée de parapluies depuis toujours. Et donc elle m'a fait cette demande, vu que je dessine depuis toute petite, de lui faire un dessin sur un parapluie si c'était possible. Et donc voilà, le hasard de la vie a fait que je suis arrivée ici et finalement j'y reste aujourd'hui puisque vraiment c'est un métier très intéressant et très complet.
Qu'est-ce que tu aimes alors dans ce métier ?
Alors ce métier pour moi, il regroupe vraiment toutes les caractéristiques et la valeur d'un artisan. C'est-à-dire que je peux vraiment réaliser le parapluie de A à Z. Et ce parapluie, lui, contient à la fois le textile, la partie mécanique, donc toute la couture. Et également, après, voilà, je peux également le vendre et avoir ce contact avec la clientèle qui est pour moi aussi, qui fait partie du métier d'artisan. Et ici, donc, on a la chance d'avoir tout au même endroit et c'est très, très enrichissant.
Alors la question un peu fatale pour finir, comment vous vous adaptez au dérèglement climatique ?
Il y a eu plusieurs changements effectivement. Alors nous on a toujours fabriqué des ombrelles. Donc c'est un article qu'on vend de plus en plus. Parce que la particularité de l'ombrelle c'est que c'est une toile en coton, 100% coton, avec un tissage très serré. Et donc ça permet de filtrer les UV en plus d'être imperméable. Parce que c'est un coton qu'on achète chez un fournisseur en Italie qui fabrique le tissu pour le parapluie, donc il est imperméable. Mais il filtre les UV. Donc j'en vends à des personnes qui ont des cancers de la peau, qui veulent se protéger du soleil, qui ne veulent pas mettre de chapeau. Donc ça, ça fonctionne très bien. Et ce tissu coton, on le fait à la fois sur nos parapluies et aussi droit ou sur les parapluies pliants. J'ai déjà des clientes qui m'ont demandé qu'elles voulaient le fait d'avoir une ombrelle transportable pour la mettre dans le sac, donc en format pliant. Donc ça va être une des premières choses. Et la deuxième chose, c'est que depuis maintenant 2-3 ans, on fait des éventails avec le tissu à parapluie. Alors, c'est un article secondaire, on n'en fait pas toute l'année. Donc ça va être les deux produits avec lesquels on s'est adapté. Et de ce que j'ai vu sur les 50 prochaines années à venir, c'est qu'il va y avoir des pays où il va moins pleuvoir, comme par exemple le Maroc et l'Espagne, des pays où il va plus pleuvoir, comme par exemple le Canada. Et ce que j'ai vu, c'est que la France, on sera toujours partagé entre 6 mois de chaleur et 6 mois de pluie.
Et pour finir, j'aime bien découvrir de nouveaux mots et faire découvrir de nouveaux mots à nos auditeurs. Donc le petit lexique du fabricant de parapluies, est-ce que vous auriez 3 mots à nous faire découvrir ?
Il y a la baleine qui vient en fait du fanon de baleine. Hein. C'est les grands balais qu'a la baleine pour filtrer le plancton. Donc c'est une matière organique. Depuis début 1800, les parapluies étaient faits avec ces matériaux. Et à partir de 1850, c'était des baleines en acier, donc fabriquées par Peugeot. Ensuite, il y a le coulant, ce qui permet de faire coulisser... d'ouvrir le parapluie et donc c'est ce qui coulisse le long du mât du parapluie. Et il y a le tape à terre, c'est l'embout qu'il y a en haut du mât, puisque quand on marche, souvent on pose un peu le parapluie par terre et donc c'est ce qui va venir frotter sur le sol.
Un grand merci.
Avec
Pierre,
plaisir.
Lyon, et bonne continuation.
C'est ici que notre visite prend fin. Vous pouvez comme toujours la retrouver aussi sous forme de chronique sur le site de la Nouvelle République et en images sur les réseaux sociaux. On espère que cet épisode vous a fait voir des arcs-en-ciel dans les giboulées de Mars et vous a apporté un peu d'enthousiasme dans la grisaille ambiante. Au prochain épisode, on vous emmène au sud de Poitiers dans un atelier de ferronnerie d'art spécialisé en restauration de monuments historiques. C'était un épisode de L'or dans les mains en partenariat avec La Nouvelle République, avec à l'écriture et à la voix Philomène Vuillard, au montage Malo de Saint-Venant et à la musique Oscar Meurer. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes aux métiers manuels. Autrement dit, réintégrer la pratique artisanale dans les collèges. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt !